Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi, il est 18h pile à Kinshasa. Voici un journal. Arrivé à Kinshasa hier d'une délégation de la division de l'assistance électorale des Nations Unies à la demande de la CENI, objectif, évaluer et examiner les modalités d'un appui onusien aux prochaines élections en RDC. 12 morts, c'est le bilan d'une attaque des miliciens de la Codeco sur un site de 1500 déplacés hier après-midi au village de Koba 2 en Ituri. Les FARDC affirment que cette zone enclavée ne facilite pas les opérations militaires. Notre invité, c'est l'unique médecin dentiste à l'hôpital général de Kindu Maniema. À l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, Bibiane Bokonzola demande aux autorités de renforcer l'équipe pour faire face aux maladies bucco-dentaires. Madame, Messieurs, bonsoir. À la demande de la CENI, une délégation de la division de l'assistance électorale des Nations Unies est arrivée à Kinshasa hier samedi. C'est pour évaluer et examiner les modalités d'un appui de l'ONU en vue de la bonne tenue des prochaines élections en RDC. Explication de Pierre Elamiji.
Il faudra définir certains préalables pour que la mission atteigne parfaitement ses objectifs. Voilà pourquoi l'équipe onusienne va commencer par évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral en RDC, comprendre le cadre juridique institutionnel régissant le processus électoral. Une fois ce diagnostic établi, les capacités et les besoins des différents acteurs électoraux seront ainsi mieux connus et l'assistance onusienne mieux définie. Pour ce faire, deux réunions seront organisées avec un large éventail d'interlocuteurs des forces vives en RDC. C'est notamment un échantillon d'acteurs électoraux issus du système des Nations Unies, des autorités gouvernementales et électorales, des partis politiques, mais aussi les médias, la société civile ainsi que les missions diplomatiques accréditées.
Merci Pierrot Elamiji pour ces précisions. Développer et approfondir davantage les relations économiques entre la RDC et la Belgique, c'est l'objectif de la mission qu'effectue une délégation belge ici à Kinshasa depuis hier. Le ministre chargé du développement territorial et de la rénovation urbaine qui conduit la mission belge a indiqué à Radio Okapi que cette mission répond à l'invitation du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Rudy Verro est au micro de Paul Matendo.
Cette mission fait suite à une rencontre que j'ai eue avec votre président, qui connaît particulièrement bien Bruxelles, et donc nous étions rencontrés lors de sa première visite officielle, et il avait immédiatement lancé l'invitation à ce qu'il y ait une large délégation à la fois académique, culturelle et économique qui puisse se rendre ici à Kinshasa. Malheureusement, la crise du Covid a un peu, je dirais, chamboulé le programme et le calendrier, mais enfin, on est là et nous allons avoir de nombreuses rencontres. Il y a de nombreuses entreprises, à la fois bruxelloises, wallonnes et flamandes, qui sont présentes. L'idée est évidemment de développer, d'approfondir nos relations, je dirais, économiques, des investissements réciproques. Et puis au niveau culturel, des échanges, notamment en art moderne et contemporain, une délégation culturelle qui est aussi présente. Et puis il y aura une dimension sociale aussi, avec des rencontres que nous allons faire avec des associations sur le terrain. Donc c'est une mission à visage multiple.
Autre nouvelle, 12 morts dont 2 enfants et 4 femmes. C'est le bilan d'une attaque des miliciens de la Codeco sur un site spontané d'environ 1500 déplacés hier samedi au village de Koukba 2 dans la chefferie de Ndo et Boku dans le territoire de Djougou en Ituri. Des sources concordantes affirment que ce drame fait suite à l'absence des FARDC et de la police. Les FARDC précisent que cette zone enclavée ne facilite pas les opérations militaires. Le récit d'Isaac Rémoyopé.
Des assaillants de la Codeco munis d'armes blanches se sont introduits vers 4h du matin au site des déplacés de Gokpadé, situé à environ 70 km au nord de Bounia dans le territoire de Djougou. Ils se sont mis à découper à la machette la population, affirme le chef d'Endo Okebu. Les cris des premières victimes ont réveillé d'autres déplacés de leur sommeil. Ils couraient dans tous les sens pour tenter de se mettre à l'abri de ces inciviques. Dans cette confusion pendant la nuit, 12 personnes ont été tuées, 6 hommes, 4 femmes et 2 enfants. Tout le site a été aussitôt vidé de ses occupants qui ont trouvé refuge dans les entités voisines Mambisa et Mayalibo. Les chefs coutumiers locaux fustigent l'absence des services de sécurité. Ils disent avoir déjà alerté plusieurs fois les autorités militaires pour déployer les phares d'essai dans cette zone, mais sans succès. Contacter les porte-parole de l'armée en Ituri indique que ces milliers est inaccessible. Il faut d'abord désenclaver la région avant de lancer les opérations militaires. Lieutenant Gilles Ngongo.
Nous condamnons d'abord cette tuerie parce que ces gens-là prétendent être des bonnes foi, de coopérer pour participer à la paix. Mais les actions qui mènent sur le terrain, c'est des extrémités différentes.
La première des choses, il faut rendre d'abord cette zone accessible et mener les opérations contre les groupes armés qui inquiètent notre population là-bas.
Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ce dimanche à Goma, au Nord Kivu, de la première conférence internationale sous la gestion des volcans. La communauté scientifique expose dans cette ville sur la surveillance et la gestion des risques volcaniques dans la région. Dario Tedesco, un des experts, revient ici sur les leçons à tirer de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo survenue le 21 mai dernier. Il est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Nous, on a envoyé des volontaires sous les fractures. On a recensé 458 fractures. Et quand on a demandé les dates d'ouverture, par exemple, on découvre qu'un certain nombre de fractures, pas beaucoup, c'était ouvert au mois d'avril, donc un mois avant l'éruption. Ça, c'est un paramètre assez important. Après, on s'aperçoit que au même temps de l'ouverture de ces fractures, au mois d'avril, il y avait un essence sismique qui avait eu lieu. Et peut-être, on n'y avait pas prêté énormément d'attention. Après, on s'aperçoit que juste avant le centre sismique, donc cette série de tremblements de terre, il y avait eu une augmentation du flux de gaz dans le cratère du Nyiragongo. Donc des toutes petites anomalies qui, si on les prend séparément, n'ont peut-être aucune valeur. Alors, vu qu'on n'a pas l'habitude de raconter ou de faire mettre peur aux gens, je pense que c'est nécessaire de repartir de zéro. L'OVG l'a déjà fait, évidemment. Peut-être les chercheurs étrangers devraient faire la même chose, de s'y mettre au boulot, tranquillement, en regardant avec un œil complètement différent tous nos données.
Accident de circulation survenu au pont Maïndombe sur la route nationale numéro 1 causant la mort de 9 personnes dont 3 députés provinciaux du Kwilu. Le gouverneur Willy Itundala vient d'arriver ce dimanche sur les lieux du drame avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Il fait savoir que 2 corps ont été repêchés hier samedi et 2 autres ce dimanche. Il s'agit des passagers entre autres que les 3 députés provinciaux. En attendant, Willy Atundala indique que les plongeurs angolais sont dépêchés sur les lieux d'une rame pour manier 2 grues afin de sortir les autres corps ainsi que la jeep. Il a été joint par Irène Boma.
Nous sommes au lieu du drame à Mbombé. Nous venons d'arriver depuis 9h30 avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Intervenants en fait tunnel au lieu du drame. Hier, il y a eu 2 corps qu'on a récupérés. Aujourd'hui, à notre présence, il y a eu 1 corps qu'on a récupéré. Et on n'a pas pu identifier, mais il y a un médecin à l'encontre des FADC, force navale, directement le corps est transféré à la mort du cinquantenaire à Kinshasa. Et on nous annonce déjà un 4e corps. De quoi nous sommes allés, nous sommes en train d'attendre. Au moment où je vous parle, nous sommes là avec des plongeurs. Il y a 2 grues. On attendait 3 plongeurs qui sont déjà sur place. Ils venaient déjà affronter dans le lac. Tantôt là, ils vont descendre pour l'eau pour essayer de mettre le crochet et tirer le véhicule pour voir ce qu'il y a dedans. C'est à ça que nous sommes en train d'attendre.
On enchaîne avec la Tchopo où les autorités locales et provinciales sont appelées à faire de l'aménagement du territoire leur métier quotidien et d'une gestion rationnelle des forêts. Appel lancé par le directeur de Tropembos, RDC, à l'atelier de renforcement des capacités des autorités du territoire de Bofosende sur l'aménagement du territoire. Ces assises ont été organisées hier samedi à l'auberge de Mambo de Kisangani. Le compte rendu de Jacques Mkonkole.
Une trentaine des chefs de secteur du territoire de Bafoua-Sendé et des autorités provinciales en charge de l'aménagement du territoire ont pris part à cet atelier d'une journée. Objectif déclaré, la rationalisation des utilisations diversifiées des terres et de la projection de l'avenir, comme l'explique le professeur Alphonse Maïndo, directeur pays des Tropenbos.
Pour qu'il y ait une gestion rationnelle et que nous puissions aussi léguer aux générations futures ce dont nous avons bénéficié, alors il faut que nous puissions faire un aménagement et que nous puissions donc faire des allocations de cet espace et que nous puissions ainsi gérer de manière responsable les ressources qui sont disponibles sous cet espace.
Les concernés ont bien compris le bien fondé de l'aménagement de l'espace et se disent désormais bien édifiés. Augustin Sibili Kasongo, chef de secteur de Bakundumu. Ça va nous aider à aménager nos forêts, notamment les forêts communautaires, savoir comment planifier les différentes activités, agriculture, élevage, recherche de minerais, construction de maisons, vraiment c'est très important. Si le territoire n'est pas bien aménagé, il y a risque de destruction massive, des tensions intercommunautaires et même des affrontements armés, prévient le directeur des Tropenbos RDC, professeur Alphonse Maïndo. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
On reste dans la province de la Tchopo où les femmes agricultrices d'Alibuku, village situé à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Kisangani, sont appelées à protéger l'écosystème. Appel lancé par le collectif des femmes lors d'un échange organisé hier après-midi. C'est dans le cadre du mois dédié à la femme. L'agroéconomiste Madame Nela Bauma appelle ces femmes à se regrouper en une coopérative. Elle est au micro de Jacques Mukonkole.
Alibuku est un coin où on exporte beaucoup plus de bois. On a vu qu'il y a évacuation et il y a des espaces qui sont restés vides. Tout arrive pour détruire leurs champs. Quand il y a le vent violent, ce sont leurs toitures qui partent. C'est pas seulement les gens qui exploitent, qui détruisent. Nous-mêmes, d'abord, comme les agriculteurs, nous sommes les premiers responsables pour détruire la forêt. Par période, chaque foyer peut même détruire un hectare. Et si nous avons 100 foyers à Alibuku, donc par saison, on a en train de détruire les arbres de 100 hectares. Et nous les faisons comme ça deux fois par an. On va essayer nous-mêmes. Comment on peut sédentariser notre culture? Comment on peut faire des cultures de rotation pour essayer de stabiliser notre forêt afin que ça puisse réduire les dégâts qu'ils sont en train de subir? Ça ferait mieux. On a constaté aussi qu'il y a un tarissement des sources. Si on va essayer aussi de faire que chaque ménage cultive ne fût que des plantes, ça va aider la communauté à retrouver leur voie qu'ils étaient avant.
Et puis, les femmes médecins de la province du Maniema ont entamé hier samedi une campagne de sensibilisation des élèves filles et des différentes écoles de la province. C'est pour les encourager à étudier. La présidente de l'association des femmes de cette province affirme à Radio Capi que ces filles élèves sont également sensibilisées sur les dangers d'un avortement forcé. On écoute Dr Olive Abamboula qui s'est confiée à Florence Kizalunga.
Dans notre association de femmes médecins Eva au Maniema, nous sommes allés sensibiliser les filles de l'excellence parce qu'elles doivent être compétentes pour assumer de grandes responsabilités. C'est ça la parité, c'est ça l'égalité des sexes. Et nous nous sommes trouvés devant un petit problème qui est beaucoup de femmes n'arrivent pas à assumer de grandes responsabilités parce qu'elles ne sont pas compétentes. Alors il fallait sensibiliser les jeunes femmes à pouvoir étudier. Et c'est pourquoi nous avons exhorté les jeunes filles à connaître leur cycle menstruel. On a donné les différentes conséquences des avortements provoqué. Alors, comme conseil, on a demandé aux filles de se mettre pour étudier et de ne pas se laisser faire avec les garçons. Parce qu'aujourd'hui, une fille qu'on doit appeler pour briguer de grandes responsabilités, c'est une fille qui a étudié. Alors, beaucoup de filles abandonnent leurs études parce qu'elles se trouvent déjà filles mères et là, elles vont seulement rester à la maison comme femmes ménagères. Et en dehors de ça, nous avons organisé aussi un match amical qui a opposé les épouses des médecins ainsi que les femmes médecins. Ces matchs s'est soldé avec un score de 0-0 partout.
Actualité internationale.
La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui leur ménage. Annonce faite ce dimanche après-midi par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi affirme que plus de 3 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de l'invasion russe et que 60 000 autres ont pris la route de l'exode. Et puis au Mali, les leaders des partis politiques pour une transition réussie dénoncent plusieurs dysfonctionnements dans la conduite de l'actuelle transition. transition. Il fustige également les violations systématiques des engagements pris, les menaces à peine voilées, mais aussi les intimidations dont ils sont victimes. Ils exigent par conséquent la mise sur pied d'une nouvelle transition avec un nouvel organe législatif intérimaire et un nouveau premier ministre non partisan.
L'invité.
Notre invité, c'est l'unique médecin dentiste à l'hôpital général de Kindu Maniema à l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Docteur Bibiane Bokonzala demande aux autorités de renforcer l'équipe pour faire face aux maladies bucco-dentaires. Elle s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Docteur Bibiane Bokonzala, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Nous célébrons la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Quelle est la situation dans la province du Maniema?
Il y a des problèmes, des maladies bucco-dentaires dans la population. Il y a des malades qui souffrent de ces problèmes, de ces maladies bucco-dentaires, mais qui sont en train peut-être de traîner à la maison. Les autres n'ont pas assez de moyens pour venir à l'hôpital et les autres ne sont pas bien informés que ces maladies peuvent être soignées à l'hôpital. Voilà, donc il y a vraiment un sérieux problème dans la santé bucco-dentaire de la province de Maniema.
Y a-t-il vraiment des cas qui nécessitent les soins?
Oui, évidemment, il y a beaucoup de cas qui nécessitent les soins parce que toutes les fois qu'on a fait des portes ouvertes, c'est-à-dire des consultations gratuites, les malades étaient vraiment pleins et voire même les autres n'ont pas pu assister parce que les jours étaient trop limités. Donc, il y a des cas qui nécessitent vraiment les traitements.
En tant que dentiste, quelles sont les principales plaintes en ce qui concerne les soins bucco-dentaires en province?
Ici, dans la province de Maniema, je peux dire il y a trois principale plainte. Il y a d'abord le problème des caries dentaires qui est comme maladie phare. Il y a un deuxième problème sur les parodontites et il y a un troisième problème qui est les traumatismes maxillofaciales. Donc avec la circulation du trafic routier, il y a beaucoup de cas en tout cas de traumatismes.
Et qu'est-ce qui peut justifier cela?
Oui, comme je disais pour les derniers cas, donc le traumatisme, avec la circulation, les motos, comme on n'a pas assez de bus, il y a seulement les motos qui opèrent dans les transports. Donc avec beaucoup d'accidents de trafic routier, il y a trop de problèmes dans les traumatismes maxillofaciales. Et pour ce qui est des parodontoses, les gens ne sont pas bien informés comment bien prendre soin de leur bouche. Et pour ce qui est des caries, bien sûr, aussi, parce que les gens ne sont pas bien informés, ils se laissent prendre des traitements par-ci, par-là, des feuilles, des histoires, pendant que la carie est en train d'évoluer jusqu'à ce qu'ils doivent venir à l'hôpital dans un état vraiment très critique.
Vous êtes seul au Maniema. Comment s'organise la prise en charge des malades?
Oui, ça, c'est vraiment un problème. La prise en charge est tellement difficile parce que je suis d'abord seul. Il y a des cas qui passent outre. Et des fois, nous manquons de produits spécialisés ici même dans la province. Là, il faut toujours faire recours à Kinshasa. Et puisque la province est tellement grande, moi, je suis à Kindu, je ne sais pas me déplacer, aller dans des territoires. Alors, beaucoup de malades, il y a un petit nombre de malades qui quittent les territoires pour venir se faire soigner à Kindu, ceux qui ont un peu de moyens. Mais les autres sont vraiment abandonnés à leur triste sort.
Hygiène bucco-dentaire, quel conseil donner à la population?
Oui, je vais conseiller à la population de bien se brosser les dents. Quand est-ce qu'il faut brosser les dents? C'est après avoir mangé. Et combien de fois? C'est deux fois au moins par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir après les derniers repas de la journée. Et se brosser bien avec une brosse à dents bien adaptée et aussi suivre le mouvement du brossage comme il se doit. Il faut pas faire le mouvement contraire pour ne pas aussi endommager la gencive et tous les tissus de soutien. Les brosses à dents que nous conseillons aux malades, que ce soit des fibres assez souples, que ce soit pas trop dur pour ne pas traumatiser. De consulter les services de dentisterie de l'hôpital général de référence de Kindu chaque fois qu'ils ont un problème, que ça soit au moins au début, parce que nous avons remarqué que les malades viennent souvent quand c'est déjà pire. Ce que je vais conseiller, que quand vous avez un problème dans les sphères bucco-dentaires, c'est mieux de consulter les services à temps. Là, on peut sauver les cas et vous pouvez garder même ses dents sans qu'on les sait.
À part ça,
À part ça, je voudrais aussi lancer un appel à notre hiérarchie. La province de Maniema souffre avec le manque des chirurgiens dentistes. Vraiment, s'il y aura de confrères, consoeurs qui sont dans la capitale qui vont me suivre, vraiment, je suis en train de demander qu'il y ait des médecins dentistes dans la province de Maniema, parce que couvrir toute une province, une seule personne, c'est pratiquement impossible. Même la seule ville de Kindu, c'est difficile de la couvrir déjà. Donc, si on peut nous envoyer des médecins dentistes dans la province, ça sera vraiment un soulagement.
Docteur Bibiane Bokazola, merci.
Merci à vous, Madame Florence.
L'invité de Radio Okapi, c'était l'unique médecin dentiste de l'hôpital général de Kindu Maniema. Docteur Bibiane Bokonzala a été interrogé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noël Aluzitu Kabambi et Piero Elameji et qui ont préparé ce produit mis en nom de Polydor Basunga. Je suis Pascal Masserica. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.